le travail que j'ai mené sur la science des matériaux et en particulier le biomimétisme a été mené en partie avec Hervé Haribar, qui est directeur scientifique à Saint-Gobain. Et donc, je lui suis très redevable de ce que je vais exposer aujourd'hui. Donc, depuis une douzaine d'années, la science des matériaux a une idole, Emilia Uxulei, Émilie de son petit nom, qui est la star des matériaux. C'est une minuscule algue marine, un organisme monocellulaire d'environ 5 micromètres de diamètre, qui vit au fond des mers et on en trouve en abondance dans le bassin parisien. Et ce micro-organisme intéresse beaucoup les chercheurs en matériaux car sa cocosphère de carbonate de calcium est un vrai bijou. Elle est formée d'une dizaine de coccolithes qui sont des plaques courbes juxtaposées, chacune composée elle-même d'un tube ovale, d'où part une double couronne, etc., etc. Et le recouvrement partiel de ces coccolithes fait que la coccosphère est extrêmement robuste malgré sa légèreté, qu'en plus elle protège des rayons ultraviolets, et qu'elle a le bon goût aussi de rendre ce micro-organisme moins appétissant à d'éventuels prédateurs. Donc voici une structure qui est un modèle de matériau biominéral alliant légèreté et robustesse et multifonctionnel. Bien d'autres structures élaborées par le vivant font aujourd'hui l'admiration des chercheurs en matériaux. Je citerai pour mémoire la soie d'araignée, les ailes de papillon, la peau de dauphin, la feuille de nénuphar. Bref, la nature semble avoir résolu de manière élégante des problèmes fondamentaux que se posent aujourd'hui les ingénieurs en matériaux. Elle sait faire des matériaux sur mesure, elle sait faire des matériaux multifonctionnels, elle sait faire des matériaux biodégradables, recyclables et en plus de manière peu coûteuse en énergie. Autant de défis pour les ingénieurs. Imiter le vivant est donc devenu un mot d'ordre, en tout cas un espoir. Ce n'est certes pas la première fois que l'on espère trouver des solutions techniques en se tournant vers la nature. Le courant biomimétique contemporain réactive même un thème archaïque, puisque aux origines même des techniques occidentales, on prétend que les techniques sont nées d'une imitation de la nature. Démocrite, par exemple, prétendait que l'art de construire les maisons ou l'art du tissage avait été inventé par imitation des oiseaux qui construisent leur nid, ou des araignées qui tissent leur toile. De même, dans Physique 2, Aristote, reprenant les exemples classiques de Démocrite, développait la thèse selon laquelle l'art imite et complète la nature. L'art, techné, est une mimesis de la physis, la nature. Donc cette idée que l'art est imitation de la nature pour la compléter est aux origines même de la technologie. Et de même, la technique médicale est, à l'époque d'Hippocrate, présentée comme une imitation de la nature. Cela ne veut pas dire que les stratégies biomimétiques, c'est-à-dire d'imitation du vivant, sont toujours gagnantes, loin de là, comme le rappelle la fameuse légende du vol d'Icare, puisque, justement, en voulant imiter le vol des oiseaux, Icare se tue. Les exemples d'imitation réussie sont si peu nombreux qu'on les cite toujours en exemple, et ce sont toujours les mêmes exemples qui reviennent. C'est le fameux exemple du Crystal Palace à Londres en 1851, qui aurait été inspiré à l'architecte John Paxton par un nénuphar géant d'Amazonie. C'est l'exemple des fils de fer barbelés inventé en 1868, qui aurait été inspiré par les épines d'un arbre du Texas. C'est enfin, plus récemment, en 1948, l'exemple du Velcro, qui aurait été inspiré à un ingénieur suisse par une plante qui lui collait à ses chaussettes lors d'une randonnée en montagne. Je dis toujours « aurait été » parce que cette idée est fascinante, qu'il suffirait d'ouvrir les yeux sur la nature pour la copier, pour être un bon inventeur. Elle est fascinante, mais en réalité, entre l'observation de la nature et l'invention technique, il y a toute une série, une longue, longue série de démarches à faire qu'on appelle parfois transfert de technologie d'ailleurs, comme si la nature était une technologie, et cette longue série de démarches n'a rien d'évidente. Le terme biomimétisme lui-même apparaît pour la première fois comme un terme générique en 1962 dans un colloque de cybernétique. Il recouvrait alors toutes les formes d'imitation d'une forme de vie par une autre. J'entends par là les imitations des insectes, par exemple, qui imitent les feuilles pour se protéger des prédateurs, ou les techniques de séduction des insectes pour attirer le partenaire, etc. Donc, c'était un terme très, très vague. En revanche, dans ce colloque de 1962, McCulloch utilisait le terme « bionique » pour désigner plutôt ce qu'on entend aujourd'hui par biomimétisme, à savoir, je cite, « une tentative pour comprendre relativement bien les astuces que la nature utilise effectivement pour résoudre ses problèmes ». Or, aujourd'hui, bionique a un tout autre sens qui est fort éloigné. Le terme biomimétisme a refait surface dans les années 1980-90 et il est devenu un concept ombrelle, si je peux dire, qui recouvre un ensemble de recherches apparemment hétéroclites allant de la chimie des substances naturelles aux nanotechnologies, en passant par les biomatériaux, la bionanotechnologie et la chimie supramoléculaire. Est-ce que c'est vraiment un courant ? J'en doute. Et en tout cas, il y a des revues aujourd'hui qui s'appellent Biomimétisme. Il y a des congrès Biomimétisme, mais ça ne fait pas vraiment l'objet d'une discipline organisée. Et la définition actuelle du biomimétisme est donnée dans un ouvrage qui s'appelle Biomimétisme. Biomimetics is the study of biological structures, their function and their synthetic pathways. In order to stimulate and develop these ideas into synthetic systems similar to those found in biological systems. Ce qui est important, c'est que dans tous les cas, il faut comprendre le vivant pour en apprendre ou en prendre quelque chose. Le biomimétisme est avant tout un nouveau regard porté sur le vivant, un nouveau courant d'études du vivant qui a restimulé des disciplines un peu en perte de vitesse, comme la biologie marine, la physiologie végétale, la biomécanique et, bien sûr, celle-là n'était pas du tout en porte de vitesse, la neurologie ou la biologie moléculaire. C'est-à-dire que c'est un nouveau regard sur le vivant qui interprète le vivant comme des systèmes techniques, comme des systèmes technologiques, et je souligne le mot « système » qui, vous allez le voir, est crucial. Mais cette approche du vivant a vraiment une finalité technologique. Maintenant, de quel genre de similarité, systems similar to those found in biological systems, de quel genre de similarité s'agit-il ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire imiter ? Je distinguerai deux types de regards sur le vivant aujourd'hui, imiter ou hybrider. Et dans imiter, le mot imiter peut avoir deux sens. On peut copier la nature, c'est-à-dire la prendre pour modèle, ou on peut s'inspirer de la nature, c'est-à-dire la prendre pour exemple. Et dans hybrider, à nouveau, je distinguerai deux sens. S'intégrer, qui est le thème précis de ce colloque, mais vous allez voir que ça ne représente qu'une toute petite part du biomimétisme, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est prendre la nature comme un système, ou s'approprier, Et nous verrons que c'est en fait regarder la nature comme une machine. Croyons d'abord copier, c'est-à-dire prendre la nature pour modèle. Refaire du vivant dans des tubes à essai, c'était le grand rêve des chimistes, depuis les alchimistes, il faut bien le dire, depuis Paracelse, qui faisait fermenter du sperme humain dans un tube à essai parce qu'il jugeait indigne de l'espèce humaine de se reproduire en s'accouplant. Et ce mythe de refaire du vivant dans des tubes à essai a été la grande source d'inspiration de la biologie synthétique, de la chimie synthétique, pardon, au XIXe siècle, puisque pour Marcellin Berthelot, reproduire avec les éléments et par le seul jeu des forces moléculaires l'ensemble des composés définis naturels et des métamorphoses chimiques que la matière éprouve au sein des êtres vivants, tel est le programme de la chimie de synthèse. C'était un programme ambitieux. Il s'agissait à partir des quatre éléments de base, carbone, hydrogène, oxygène et azote, de synthétiser des vivants. Alors bien sûr, Berthelot disait bien que jamais la chimie ne referait un cheveu ou une feuille. Mais enfin, l'espoir était d'y parvenir. Est-ce le même rêve aujourd'hui qui anime les chimistes? Eh bien, je ne crois pas. Copier aujourd'hui a un tout autre sens et ce tout autre sens vient de l'accès à la structure fine des matériaux grâce aux techniques instrumentales qui permettent de visualiser d'abord les microstructures et maintenant les nanostructures et qui a permis d'ailleurs quelques réussites spectaculaires. Une des plus spectaculaires réalisation biomimétique a été inspirée par la ballonne ou Strombus gigas, qui est une espèce de coquille biominérale qui peut faire jusqu'à 80 cm de diamètre. Et l'histoire me fut racontée par Ilyan Aksay de Princeton Material Science Institute, qui était chargé par la US Army de faire un bouclier pour les militaires. Et il avait conçu déjà un système de bouclier, étanche au bal. Comment on dit étanche au bal Enfin voilà, anti-balle, voilà, parabale ou anti-balle. Et sur ce, il a découvert la structure de Strombus gigas et il a recomposé son gilet pare-balles, voilà, c'est devenu. Il a recomposé son gilet pare-balles qui était fait en structure Cermet. Il a recomposé en regardant la structure lamellaire des coquilles. Ce qui est extraordinaire dans les coquilles biominérales, c'est qu'elles sont faites d'un matériau extrêmement commun, qui est le carbonate de calcium, soit aragonite, soit calcite, mais plutôt aragonite. Mais c'est surtout la structure qui est remarquable et qui a été élucidée et qui donne des propriétés mécaniques de résistance à la rupture spectaculaire. Donc l'idée empruntée ici, c'est de copier cette structure lamellaire qui est à toutes les échelles et qui se reproduit à toutes les échelles. La deuxième réussite spectaculaire, c'est la surface des feuilles de nénuphar. La feuille de nénuphar a cette propriété que quand il pleut, elle ne se mouille pas. Et là, ce sont des propriétés non pas mécaniques, mais des propriétés de surface qui ont été imitées pour faire des vitrages sur lesquels l'eau glisse sans mouiller. Et il a justement consisté à reproduire le détail des surfaces de figures de nénuphar, des surfaces de la feuille de nénuphar, de manière à obtenir détail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelle est la vision de la nature comme modèle? Qu'en est-il de ce modèle? ce n'est pas le vivant comme tel qu'on reproduit, contrairement aux chimistes du 19e siècle qui avaient l'ambition de faire du vivant et qui prétendaient même que la synthèse de l'urée était la première étape vers la reproduction du vivant. Là, ce n'est pas du tout le vivant comme tel, c'est beaucoup plus modeste. Le regard sur la nature est humble et modeste et non pas arrogant comme au XIXe siècle. Mais ce n'est pas du tout une vision d'ensemble, c'est un détail local qu'on cherche à copier et à imiter. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est un regard de naturaliste, un regard de détail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le courant biomimétisme a revivifié les sciences naturelles qui étaient en perte de vitesse par rapport à la biologie moléculaire, en particulier l'étude des structures biominérales. Donc ce n'est pas du tout une vision d'ensemble, un détail local. Par ailleurs, qu'est-ce que c'est que copier ? Copier suppose déjà une démarche d'abstraction. C'est-à-dire qu'on ne copie pas la feuille de nénuphar, on transpose. Et la démarche d'abstraction consiste à se dire, étant donné la telle fonction qu'on veut, quelle est la propriété qu'il faut obtenir en surface, par exemple pour la feuille de nénuphar, et à ce moment-là, quelle est la structure correspondante. C'est donc une démarche qui est, comme vous le voyez, inspirée de la biologie, puisque la démarche structure, propriété, fonction est profondément biologiste, mais c'est aussi la démarche des chercheurs en matériaux depuis des décennies. Donc là, il y a une rencontre qui est autour d'une démarche intellectuelle et qui est une démarche d'abstraction par rapport au vivant. Deuxième attitude qui est s'inspirer, prendre la nature comme exemple. La distinction entre modèle et exemple, qui est les deux sens du terme mimesis en grec, quand Aristote parle de la technique comme mimesis, la différence entre modèle et exemple est assez intuitive pour qu'on perçoive bien la différence de comportement imitatif. Le modèle, c'est ce qu'on copie au détail près. Mais on suit un exemple. On suit un exemple, c'est-à-dire que l'exemple constitue une sorte d'idéal du moi. L'exemple, c'est ce dont on s'inspire pour élaborer et construire sa propre stratégie, sa propre conduite, en fonction de son propre contexte ou des données dans lesquelles on travaille. Il s'agit donc de tirer des leçons des stratégies du vivant, de suivre une ligne de conduite, ce qui suppose une vision beaucoup plus dynamique et moins parcellaire, moins statique. Quelles sont les leçons, justement, qu'on emprunte au vivant? Eh bien, ce sont des leçons qui subvertissent les techniques traditionnelles de la chimie et de la science des matériaux même. Ce qui a tourné historiquement le regard des chimistes, retourné plutôt le regard des chimistes vers la nature, eh bien, c'est, me semble-t-il, je ne crois pas me tromper, c'est la vogue dans les années 70-80 des polymères renforcés, c'est-à-dire ce qu'on appelait par la suite les composites. Or, les matériaux du vivant sont tous des composites. Le vivant, contrairement à la chimie qui recherchait la pureté et l'homogénéité, le vivant, si j'ose dire, travaille toujours dans l'impureté, dans le mélange. Et c'est précisément les stratégies du mélange qui ont retourné l'intérêt des chimistes vers le vivant. Apprendre de la nature comment on peut tirer parti de l'inhomogène et du mélange. Or, les composites, justement, révèlent que la nature fait des composites aux performances inégalées. Le bois est un composite à matrice organique et fibres organiques. L'os est un composite à matrice organique, le collagène, mais renfort inorganique, l'apatite ou phosphate de calcium, etc., etc. Les exemples sont multiples. La nature déploie quantité de solutions composites qui ont des propriétés remarquables. Deuxième leçon, ce sont des structures hiérarchisées. La nature, précisément, travaille sur du multi-échelle. Et le secret du vivant, c'est qu'elle produit à chaque échelle, à l'échelle nano, à l'échelle micro, à l'échelle méso et à l'échelle macro, eh bien, chaque fois, on a un niveau d'organisation différent. Ici, c'est la structure hiérarchique du tendon, la structure hiérarchique du bois, et ces niveaux discrets, si je peux dire, discontinus, sont vraiment le secret de l'organisation du vivant. Trois aspects des structures hiérarchiques sont devenus les règles de conduite aujourd'hui pour faire des matériaux complexes. Premièrement, il faut des niveaux discrets, au minimum 4. Nano, micro, méso, macro. Et il faut des interactions spécifiques, en général de surface, entre les composants à chaque niveau. C'est vraiment les interactions qui permettent, chaque niveau est indépendant, mais en interaction avec tous les autres, ce qui donne des structures responsives. Troisièmement, organisation adaptée à un ensemble de fonctions. Un biocomposite hiérarchique est beaucoup plus qu'un matériau à partir duquel on peut construire des objets plus grands. C'est plutôt un système, et je souligne encore système, structural complet en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation interne. Le système est construit à partir de... Il est finalisé, pour utiliser un gros mot, qui n'avait plus droit de citer. Mais la technologie est aussi finalisée. Troisième leçon qu'on emprunte au vivant, c'est, je reviens là, la démarche bottom-up, non plus top-down. Dans la technologie classique, on utilise le bois, on utilise l'os, c'est même les débuts des technologies, hein, mais on les utilisait pour les sculpter, pour en tirer un outil ou un objet. En revanche, la démarche qu'innovent les nanotechnologies, c'est précisément une démarche ascendante, copiée sur le vivant. Les matériaux du vivant sont synthétisés atome par atome, ou du moins molécule par molécule. Or, le grand mot d'ordre, le grand motif des nanotechnologies, c'est bien celui-ci. Si cela existe dans la nature, alors on peut le faire. C'est très exactement l'argument sur lequel Eric Drexler fondait en 1986 l'espoir d'une manufacture moléculaire qu'il a appelée « Engines of Creation ». Mais comment s'y prendre pour assembler les pièces à partir des atomes ou à partir des molécules? Drexler compare la manufacture moléculaire à un jeu comme le mécano ou le Lego. Mais comment assembler les pièces de Lego? Comment assembler ces pièces de Lego avec nos gros doigts? Et c'est pourquoi Drexler avait inventé qu'il fallait des nano-assembleurs. Et il prenait comme modèle des nano-assembleurs, enfin il prend toujours, comme modèle des nano-assembleurs les ribosomes, qui positionnent et permettent l'assemblage des pièces. Il inventait en plus qu'il faudrait des nanorobots autoreproducteurs pour renouveler ces nano-assembleurs. Et on sait tout le délire que cela a entraîné et toute la volée de critiques que Drexler s'est prise, puisque le prix Nobel Richard Smalley, qui est mort récemment, a rétorqué des arguments de poids et de chimiste face à ce fantasme d'ingénieur, en lui disant « mais il n'est pas possible d'avoir des nano-assembleurs... » Attendez, j'avais une diapo là-dessus. Voilà. « Il n'est pas possible d'avoir des nano-assembleurs, puisque pour déplacer et positionner les atomes un par un, il faudrait tellement de bras moléculaires qui prendraient toute la place et qu'ils empêcheraient le rapprochement des atomes nécessaires à leur réaction. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'argument des fat fingers, des gros doigts. Il y aurait trop de place pour les doigts, il n'y en aurait plus pour les atomes. En tout cas, ça préviendrait, ça empêcherait les interactions entre atomes. Deuxième argument de Richard Smalley, étant donné les forces qui s'exercent entre atomes voisins, ces doigts adhéreraient ou colleraient inévitablement aux atomes qu'ils sont censés mouvoir, et alors ça ne bougerait plus. C'est l'argument des sticky fingers ou des doigts collants. Plus fondamentalement, d'autres chimistes ont rétorqué et ont montré que cette hypothèse de Drexler ne tenait pas. C'est le cas de George Whiteside de Harvard qui a montré qu'on ne pouvait pas imiter le vivant en imaginant des nano-assembleurs, puisque précisément, ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il n'y a pas de pièces pour assembler, puisque ce qui caractérise le vivant, c'est que les pièces s'auto-assemblent. Et le troisième point, justement, la dernière leçon du vivant, c'est l'auto-assemblage. Qu'est-ce que c'est que l'auto-assemblage ? Eh bien, c'est la mise en ordre d'éléments pour former des structures en 2D ou 3D, et c'est caractérisé par le fait que c'est spontané. C'est-à-dire que le secret du vivant, c'est précisément que toute l'information pour assembler les pièces est contenue dans les pièces elles-mêmes. Comment faire cela, nous qui n'avons pas le code génétique ? Comment peut-on faire ça quand on n'a pas l'information, justement, qui est contenue dans le code génétique ? Deuxième secret du vivant, c'est la réversibilité, c'est-à-dire que l'auto-assemblage joue sur des forces d'interaction faibles, capillaires, liaisons hydrogène, van der Waals, électrostatique, hydrophobe, hydrophile. Et c'est précisément parce que ce sont des interactions faibles que c'est réversible, que ça permet de corriger les erreurs d'assemblage et de travailler comme ça par essais et erreurs. Donc, c'est précisément cela qui est la stratégie du vivant. Comment peut-on imiter cette stratégie ? Ici, on a un schéma, c'est absolument illisible, j'en suis désolée, des quatre procédés utilisés par les peptides pour s'auto-assembler. Et quels sont les procédés utilisés par... je vais revenir là-dessus. Les procédés actuellement mis en œuvre par les chimistes pour copier ces procédés du vivant, eh bien, il y en a plusieurs stratégies qui sont extrêmement astucieuses. Premièrement, celle-là, je la définirai tout à l'heure, cette gravure est vraiment très, très belle. Celle-là, c'est un procédé d'utilisation de blocs copolymères qui imitent la structure des protéines en partant du fait que là, on a des liaisons qui... on obtient cela en prenant des polymères tri-blocs asymétriques et qui imitent la forme d'une protéine parce que les blocs inférieurs sont hydrophobes et se rassemblent pour former les tiges, tandis que les blocs supérieurs étant hydrophiles dans une solution donnée de bromure de potassium, je ne sais pas trop quoi, se déploient en bouquet. Et ça imite très très bien la structure d'une protéine. Et la chaîne de base, elle est ici. Mais il y a d'autres techniques, des techniques de nucléation de cristaux avec croissance de particules inorganiques qui sont inspirées de la biominéralisation. D'autres techniques qui sont les techniques dites de templates, c'est-à-dire pour faire des synthèses en forme, on part d'un template ou d'un moule, si vous voulez, qui donne des contraintes géométriques et l'orientation donc de la synthèse, en particulier avec des silices mésoporeuses. Une autre technique est celle de la formation des micelles. On utilise beaucoup les tensioactifs en solution. Alors ça, c'est de la bonne vieille chimie, si je peux dire. Et une autre technique très, très en pointe aujourd'hui, c'est celle des couches minces, particulièrement utilisé par George Whiteside, qui consiste, alors je ne donne que cet exemple, à couvrir par exemple certaines faces d'un polymère uréthane en l'occurrence, avec une couche mince d'alliage métallique liquide, en agitant doucement dans une solution tiède de bromure de potassium, grâce aux forces capillaires entre les couches d'alliage, ça entraîne l'auto-assemblage. Et cela a donné l'espoir qu'on pourrait faire une électronique bon marché avec des polymères et grâce à des techniques d'auto-assemblage. Ça, c'est Stup qui a fait ça à l'université de Northwestern, celui-là. Ces avantages de l'auto-assemblage font beaucoup rêver et c'est vrai que ce sont des méthodes extrêmement inventives. Ont-elles un avenir commercial ? On l'a cru, vraiment. Et Whiteside, le premier, qui travaille à Harvard, au département de chimie de Harvard, en 1995, Whiteside prophétisait que l'auto-assemblage était la clé pour les nanotechnologies pour faire des machines sans intervention humaine. Et il rêvait beaucoup là-dessus. Or, tout récemment, en 2005, dans le MRS Bulletin, c'est-à-dire le bulletin de la Materials Research Society, il mise en revanche sur le self-assembly à l'échelle méso. C'est-à-dire qu'il ne croit plus du tout à l'auto-assemblage à l'échelle nano. Et pour lui, l'avenir, c'est à l'échelle beaucoup plus méso. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'échelle moléculaire, les auto-assemblages qu'on peut réaliser n'autorisent pas l'implantation de fonctions électriques et magnétiques qui sont cruciales pour l'électronique moléculaire. Et donc, pour lui, c'est vraiment, alors je vous soumets ça comme une hypothèse, moi je ne suis pas juge en la matière, mais pour lui, la plupart des techniques d'auto-assemblage qui seront industrialisables et commercialisables doivent jouer à l'échelle méso. À la vérité, les techniques d'inspiration de la nature, tant au niveau de la hiérarchie des structures, qu'au niveau des procédés, c'est-à-dire d'auto-assemblage, ont amené les chimistes, les physiciens et les biologistes à se rendre compte de la différence fondamentale et du fossé qui sépare les technologies humaines des technologies, si j'ose dire, entre guillemets, utilisées par le vivant. J'ai essayé de résumer en un tableau les différences principales telles qu'elles ressortent aujourd'hui de la littérature que j'ai pu consulter, mais je suis sûre que vous pourrez en ajouter. Déjà, au niveau des structures, les matériaux composites naturels ont une organisation multi-échelle, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et en revanche, la plupart des composites synthétiques, fibres et matrices, ne sont pas elles-mêmes composites. C'est-à-dire que ce n'est pas à structure hiérarchique. On essaye, mais on ne sait pas faire. L'agencement des niveaux de forme et système multifonctionnels, alors que la multifonction qu'on obtient, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui les matériaux intelligents, c'est qu'on a chaque fois une pièce, un composant qui a une structure adaptée à une fonction. Mais on ne sait pas faire des pièces multifonctionnelles, ce que le vivant fait. Le vivant, au niveau de la structure de la cellule, chaque composant est lui-même multifonctionnel. Donc on est très très loin au niveau de la structure, de la complexité du vivant. Au niveau des procédés, c'est encore plus flagrant la différence. La nature travaille à température ambiante et avec des basses énergies. La chimie, la plupart du temps, travaille avec des températures élevées et joue sur les différences de température, en tout cas pour la thermodynamique, et des hautes énergies. Agitation permanente et mouvement brownien dans la machine vivante, entre guillemets, et en revanche, on joue peu sur les fluctuations dans la chimie traditionnelle, du moins. Plasticité, les composants dans la cellule changent de conformation suivant les conditions extérieures. Alors que, en général, les composants dans les composites technologiques sont rigides. Ils ont une structure et ils ne sont pas plastiques. surface adhésive dans le vivant, alors qu'on essaye de jouer maintenant sur les surfaces dans les composites ou dans les matériaux artificiels, mais on sait, ce n'est qu'un début. Changement du nombre de composants cellulaires dans le vivant, alors que le nombre de composants reste fixe et programmé dans les composites et dans les machines artificielles. Ensuite, auto-assemblage, je l'ai dit, alors que l'assemblage se fait du dehors par intervention d'un programme externe. Même dans ce qu'on appelle les matériaux intelligents, eh bien, il y a un programme externe. C'est un abus de langage de dire matériaux intelligents parce que le programme, il est extérieur. Enfin, il n'est pas contenu dans les pièces du système. Enfin, il y a un équilibre local entre mouvement brownien et force d'adhésion, alors qu'il n'y a pas cet équilibre toujours dans les matériaux et les machines inventées. Donc, finalement, l'inspiration et le biomimétisme a abouti à mieux comprendre les procédés et les structures du vivant et à mesurer l'écart entre les technologies humaines et les technologies naturelles, si on peut dire technologie naturelle, ce qui est un oxymore, une contradiction dans les termes. Troisième stratégie, s'intégrer la nature comme système. Cette stratégie, alors là vous allez voir que je vais être beaucoup plus brève. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu d'exemples. Cette stratégie repose précisément sur ce constat. La nature fonctionne comme un système. Soit à mettre donc en œuvre des stratégies systémiques. L'idée que la nature est un système dans lequel les objets techniques doivent s'intégrer. Et cela réclame que les objets techniques soient eux-mêmes conçus de manière systémique. Pour cela, il faut non pas imiter au sens de copier, il ne faut non pas se contenter de s'inspirer, mais il faut en plus interagir avec le système du vivant. Donc le principe, c'est de traiter le vivant comme un système complexe avec hiérarchie de structures, des composants en interaction, des éléments qui répondent aux variations du milieu et de l'auto-régulation. Ce sont des technologies d'avenir. L'objectif numéro un, c'est de créer un analogue ou analogone suffisamment proche du vivant pour être toléré et s'intégrer dans l'économie, soit d'un écosystème, soit d'un organisme. Plusieurs manières d'y arriver, c'est une tendance. C'est une tendance à l'échelle macro en tout cas. C'est une tendance qui, aussi bien en chimie qu'en pharmacie et en médecine. L'idéal aujourd'hui des biomatériaux, c'est ce que on appelle le fracture putty, c'est-à-dire une prothèse pour réparer les fractures osseuses, qui serait multifonction. Alors, il y a quantité de programmes de recherche en Europe, aux États-Unis, pour trouver le matériau idéal. Celui qui le trouvera, chapeau. C'est-à-dire une prothèse qui serait multifonction, c'est-à-dire capable d'immobiliser les fragments d'os et donc de permettre aux patients de continuer à bouger, de stimuler la guérison, de résister à l'infection et enfin de s'effacer devant l'os régénéré. Tel est le cahier de charge. Mais comme je vous dis, c'est un programme. On ne l'a pas encore trouvé. Dans la pharmacie, il y a aussi quantité de recherches aujourd'hui qui visent précisément à créer des analogues capable de s'intégrer peu à peu au système, d'être absorbé par le système jusqu'à s'intégrer et de stimuler le système. L'objectif fondamental est de créer des dispositifs avec le milieu associé. Et ça, c'est vraiment la technologie d'avenir. Je veux dire par là de créer un dispositif un matériau dispositif, comme on dit, que ce soit une nanomachine ou une mésomachine ou un dispositif, en envisageant les interactions entre composants pour anticiper les effets d'interaction avec le milieu. C'est-à-dire non pas de concevoir quelque chose qu'après on va mettre dans un milieu, mais de le comprendre en synergie avec son milieu associé. Ce concept de machine à comprendre avec son milieu associé, c'est le concept qu'il y a déjà longtemps, dans les années 60, le philosophe des techniques Gilbert Simondon avait inventé pour parler justement des techniques. Son modèle à lui, c'était la turbine de Gimbal, hein, qui était une turbine précisément conçue pour fonctionner en milieu, etc., etc. Mais que ça consiste à tourner ce qui pourrait être un obstacle en condition de fonctionnement. Et c'est ce que fait le vivant en permanence. Le vivant, tout ce qui pourrait être obstacle est tourné en condition de fonctionnement. Le mouvement brownien, qui est inévitable à l'échelle moléculaire, eh bien, le vivant l'utilise comme un atout, précisément, pour l'auto-assemblage, et etc., etc. Donc, c'est ça qui serait l'objectif d'intégration. Intégration, ça veut dire, d'abord et avant toute chose, concevoir un dispositif avec son milieu associé. Et ça, eh bien, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, et c'est pour ça que je suis désolée, j'ai aucune diapo à vous montrer, hein. Vide, hein. Feuille blanche. En revanche, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Alors non, il y a quand même des techniques qui s'en approchent de ça. En particulier, on est sur la voie de ces techniques intégratives, me semble-t-il, hein, mais je peux me tromper. Donc je vous soumets ça avec beaucoup de modestie. Il me semble que déjà la chimie douce, ce qu'on appelle la chimie douce, qui permet de travailler à température ambiante dans des réacteurs ouverts, est déjà plus proche des systèmes du vivant et donc permet mieux l'intégration que la chimie traditionnelle. Contrôler la cinétique des réactions de manière à obtenir des structures métastables hors d'état de l'équilibre, on est déjà plus proche, me semble-t-il, des conditions du vivant. Ça met en jeu des réactions qui sont aussi beaucoup plus proches, me semble-t-il, de celles du vivant. Deuxième, de même, les nanomédecines régénératives sont plus proches, me semble-t-il, de ces techniques du vivant. En particulier, j'ai lu récemment, mais je vous le soumets, et je ne sais même pas si c'est un bon modèle, j'ai lu tout récemment qu'un laboratoire de MIT, dans l'équipe de Xuguang Zhang, qui est un des laboratoires les plus performants aujourd'hui en nanomédecine, venait d'injecter une solution de peptide dans un cerveau de hamster pour former un échafaudage de nanofibres de peptide qui permet aux axones dégénérés du cerveau de se régénérer et de se mêler au tissu cérébral lui-même. Ce qui est l'objectif des médecines régénératives. Et ça, c'est un grand, grand enjeu avec tout le problème d'Alzheimer par derrière et de toutes les maladies neurodégénératives. Donc, il y a énormément d'argent et énormément d'espoir mis là-dedans. Mais vous voyez que c'est le principe précisément de guérir par la régénération des tissus eux-mêmes en les aidant à s'auto-régénérer. Voilà. Donc il me semble que, moi personnellement, je pense que les techniques intelligentes et l'avenir est de ce côté. Mais ce n'est pas l'avis des gens qui investissent des venture capital. Le venture capital et les grands investissements des politiques scientifiques aujourd'hui vont ailleurs, dans des techniques beaucoup plus prometteuses qui consistent, et c'est la quatrième figure que je voulais évoquer, qui consistent à s'approprier le vivant, plutôt qu'à tenter de le copier ou de l'imiter. C'est beaucoup plus prometteur et commercialement beaucoup plus rémunérateur, si je peux dire, de l'aveu de beaucoup d'acteurs, d'observateurs et d'investisseurs, ce n'est pas raisonnable d'essayer de jouer au vol d'Icare. Si la nature a mis des millions d'années à faire les structures qu'elle a mises au point, comment nous, en quelques milliers, en quelques dizaines d'années, avec beaucoup de milliers et de millions de dollars et d'euros, on pourrait limiter cet absurde? Et pourquoi d'ailleurs chercher à réinventer la roue? Puisque la nature l'a fait, eh bien, il n'y a qu'à piquer, il n'y a qu'à prendre. Il n'y a qu'à prendre directement ce qu'elle a fait. Et s'approprier, ça veut dire deux choses. S'approprier, ça veut dire, bien sûr, s'emparer d'eux, faire main basse sur les structures que le vivant a fabriquées, ou se rendre propriétaire des ressources naturelles. J'insiste sur l'aspect propriétaire parce que le problème des brevets est derrière. Et donc, quand je dis main basse, s'emparer, s'approprier, c'est parce qu'il y a des problèmes légaux, juridiques par derrière. Mais s'approprier, ça veut dire aussi rendre propre à nos propres conditions. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'approprier, c'est-à-dire de rendre ces structures qu'on pique, qu'on emprunte aux vivants, les rendre propres à nos usages. Et après tout, rendre des matériaux vivants propres à nos usages, c'est ce que les techniques ont toujours fait. J'ai parlé du bois, j'ai parlé de l'os tout à l'heure. Après tout, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Quand je dis s'approprier, ou l'agriculture n'a jamais rien fait d'autre que de s'approprier ce que la nature fait pour nos propres fins. Et pourtant, il me semble, mais je vous soumets ça comme une hypothèse de travail, il me semble que les bio-nanotechnologies font quelque chose d'un peu différent. Elles font, alors parce que c'est de bio-nanotechnologie que je vous parle ici, elles font quelque chose d'un peu différent au sens où elles prennent non pas le matériau en bloc, en volume, elles prennent les briques élémentaires. C'est-à-dire que l'idée de base des nanotechnologies et des bio-nanotechnologies et de tout le programme actuel de convergence bio-nano-info-cogno, qu'on appelle le fameux programme NBIC, sur lequel les États-Unis investissent des milliards de dollars, enfin, milliards ou millions, je ne sais plus, il ne faut pas m'écouter, je suis du midi, alors souvent, je ne sais pas très bien. Des millions, en tout cas. L'idée de base, c'est que quand on a accès aux briques élémentaires, à ce moment-là, eh bien, on détient les secrets des procédés et les secrets, et qu'on peut travailler avec les briques élémentaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accédé aux briques élémentaires de la matière inorganisée, c'est-à-dire aux atomes et aux molécules, à partir du moment où on peut les voir et les manipuler grâce à la microscopie en champ proche et à toutes les techniques instrumentales dont on dispose, à partir du moment où on a accès aux briques élémentaires du vivant, à l'ADN, à l'ARN, aux protéines, on peut les voir, les manipuler et on peut les recombiner. À ce moment-là, alors, on a une nouvelle façon. Donc, on les traite, on les modifie génétiquement, et ça, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on les recombine pour nos propres... on ne se contente pas de les traiter, de les processer, comme on dit, comme on processait les matériaux naturels. Là, on les change dans leur propre patrimoine génétique. Et enfin, on les utilise comme dispositifs fonctionnels. Ça, c'est la grande leçon que la science des matériaux et la chimie a tirée de la biologie moléculaire. Depuis des dizaines d'années, la biologie moléculaire nous a appris à penser les briques élémentaires du vivant comme des machines. C'est-à-dire, l'ADN est une machine à information, l'ARN est une machine à copier, ou à traduire, les ribosomes sont des chaînes d'assemblage, les polymérases, etc., etc. Le moteur de la machine du vivant, on le sait, c'est l'ATP, etc., etc. Et donc, on va utiliser ces dispositifs fonctionnels. L'idée de base des bio-nano-info et Bataclan, c'est que les unités, les briques élémentaires, sont déjà des machines. L'idée de base, c'est qu'elles sont fonctionnelles. On prend des structures comme étant des machines moléculaires. Et aujourd'hui, toute la bio-nano-physique et chimie, ça consiste à traiter les pièces du vivant comme des dispositifs fonctionnels. Or, les exemples abondent. Alors, bien sûr, l'exemple primitif, c'était celui-ci. C'était de refaire de la soie d'araignée. Et Dupont de Nemours est le premier à l'avoir fait. En modifiant le patrimoine génétique de bactéries, eh bien, ils lui ont fait fabriquer une fibre qui a les mêmes propriétés de résistance que celle de la fibre que la soie d'araignée. Et vous remarquez que du coup, la chimie a disparu du slogan de Dupont. Better things for better living, mais il y a plus true chemistry. On est dans la biotechnologie. Le savoir-faire des chimistes s'efface. Et l'ironie de l'histoire, c'est que cette fibre, effectivement, produite par biotechnologie, en manipulant... Alors, une autre façon de produire de la soie d'araignée a été utilisée par une firme canadienne, celle-là, qui consiste à modifier génétiquement le patrimoine de je ne sais plus quoi dans la chèvre pour qu'au lieu de faire du lait, elles produisent une fibre qui est la fibre d'araignée. L'ironie de l'histoire, c'est précisément que les propriétés extraordinaires, et c'est là qu'on voit la nullité, pardon, je ne devrais pas parler comme ça, qu'on voit la myopie de ce genre de stratégie technologique. On obtient effectivement une fibre qui a les propriétés mécaniques à la fois de rapport, diamètre et propriété de mécanique, semblable à celle, a priori, à celle de la fibre d'araignée. Mais les propriétés de la fibre d'araignée viennent moins de la structure de la fibre que de la manière dont l'araignée les tire. Et donc, c'est dans le processus d'étirement, on voit comment il faut penser un matériau, non pas en termes structure, propriété, fonction, mais aussi en termes procédé. Donc, par une approche systémique. Et là, on voit que ce n'est pas vraiment encore le secret. Les exemples sont multiples. Alors là, je vous donne en abondance. Utilisation de bactéries ou de micro-organismes pour produire des minéraux dans une matrice organique. En particulier, on utilise des bactéries pour produire des nanoparticules d'argent ou d'or pour faire des composites nanostructurés, ou mieux encore, pour remédier les métaux toxiques les radionucléiques dans les sites contaminés. Donc, deuxième exemple, utilisation de l'ADN pour fabriquer des nanotransistors. Le premier qui a fait ça, mais maintenant c'est monnaie courante, c'était des chercheurs du Weizmann Institute qui ont utilisé l'ADN recombinant pour auto-assembler des nanotubes de carbone afin de fabriquer un transistor. Le jeu consiste à recouvrir les nanotubes de brins d'ADN et à utiliser les propriétés de reconnaissance moléculaire de deux brins. On attache des brins complémentaires sur les électrodes en or fixé sur une surface de silicium et on mélange le liquide contenant les nanotubes recouverts d'ADN avec le silicium et les brins vont se reconnaître et se combiner, plaçant les nanotubes bien en place entre les deux paires d'électrodes. C'est une manière de faire. Utilisation de virus pour fabriquer des électrodes de batterie. Ça, c'est encore l'équipe Zhang, qui est la grande promesse pour faire des batteries lithium-ion. Enfin, une équipe, celle de Carlos Montemagno, qui est un des grands promoteurs du programme NBIC, a fabriqué un moteur moléculaire à base d'ATP, justement, et de nickel. Dernier exemple, celui d'une équipe de Munich, l'équipe de Frombeze, qui consiste à faire pousser des neurones sur un socle de silicium. Il étudie les échanges d'électrons qui font passer l'information du silicium au neurone et réciproquement. Donc, quid du vivant dans ces conditions? Et j'ai fini là-dessus. La notion de vivant à ce moment-là, c'est vraiment une notion du vivant comme machine. On traite le vivant comme un ensemble de pièces détachées qui consistent à vraiment, qui sont isolables et recombinables à merci. Et si on pousse très loin la logique de ce genre de lignée technologique, eh bien, on aboutit à ce qui est porteur d'espoir aujourd'hui et qui réactive le rêve des chimistes du 19e siècle et qui s'appelle la biologie synthétique. Je vous signale que Nature va lancer une nouvelle série de magazines qui s'appelle Synthetic Biology. Et le programme de la biologie synthétique vise à rien moins que, c'est un programme d'ingénieurs, de bio-ingénieurs, décomposer les procédés du vivant en unit operations, exactement comme les ingénieurs du début du XXe siècle ont décomposé les opérations mécaniques dans les usines en unit operations, assembler ensuite les éléments pour en faire des modules fonctionnels, par exemple un interrupteur ou un oscillateur. Donc on atomise les procédés, ensuite on assemble. Enfin, constituer une bibliothèque de biobriques qu'on appelle Registry of Standard Biological Parts, qui sont des parties interchangeables, délivrables et utilisables pour accomplir une fonction donnée dans divers milieux, les brancher par exemple dans une cellule ou un circuit électronique pour faire office de transistor, de résistance, ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est un peu utopique, et c'est cher, mais vu la chute du prix des séquences génomiques et protéomiques, il y a un avenir commercial et des investissements. Donc, les postulats de la biologie et de cette biomachine, c'est le vivant est formé de pièces détachables et standardisables. On est en pleine technologie du 19e siècle et pas du tout dans la systémique. Voilà, je vous remercie et je terminerai là-dessus.